Je vais lire un premier texte d'introduction, on en lira un second après, mais on va commencer avec Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. À partir du premier verset, on va lire les six premiers versets de ce troisième chapitre d'Hébreux, Hébreux 3. C'est pourquoi, frère Chin, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Nous allons continuer notre série sur l'Église. Et ce matin, on va aborder un sujet par rapport à la maison. Nous sommes la maison de Dieu. Et on va s'arrêter sur cette expression ce matin et tout ce qu'elle revêt, peut-être aussi dimanche prochain, on verra. Mais il est rappelé ici que sa maison, c'est nous. Je rappelle juste brièvement les points que nous avons déjà vus. La première fois, nous avons vu que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. C'est son projet, c'est sa construction, c'est lui qui bâtit son Église. Puis, nous avons vu aussi que le Seigneur aime l'Église, tel point qu'il s'est donné pour elle. Et puis, nous avons vu dimanche dernier que l'Église a une portée mondiale, tout en étant un seul peuple. Ce matin, j'aimerais vraiment m'arrêter sur le fait que, eh bien, nous sommes la maison de Dieu. Mais, il y a un mais, avant d'aller plus loin, avant de lire le second texte d'introduction, j'aimerais souligner ce qui est dit ici, au verset 3, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. N'oublions pas, nous parlons de l'Église, nous aimons l'Église, nous la chérissons dans notre cœur, mais n'oublions pas que celui qui a plus d'honneur que la maison même, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui bâtit son Église. Celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison même. L'Église est précieuse aux yeux de Dieu, elle est précieuse aussi à nos yeux, nous aimons l'Église, la preuve c'est que nous aimons venir aux réunions, nous aimons nous retrouver dans la communion fraternelle, nous prions pour l'Église, nous prions pour l'avancement de l'Église, nous prions pour son édification, pour son affermissement, on va en parler tout à l'heure de toutes ces choses-là, nous prions pour ses progrès, mais attention, celui qui a plus d'honneur, c'est le Seigneur. N'idolâtrons pas l'Église. Oui, aimons-la, mais celui qui doit avoir la première place, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. L'Église est la création du Seigneur. Ça reviendrait à faire passer la création avant le Créateur. Mais la création, lorsque nous considérons la nature et toutes ces choses, il y a de quoi s'émerveiller devant toute cette beauté, en effet. Mais à bien plus forte raison, le Créateur qui a créé ces choses qui nous émerveillent a plus d'honneur et bien plus grand et bien plus merveilleux encore. Alléluia. Oui, l'Église est belle, oui, l'Église, nous l'aimons, mais celui qui a le plus d'honneur, c'est le Seigneur Jésus. Une maison est un lieu de vie. Une maison est un lieu de vie. On construit une maison pour y vivre, pour y habiter. Et cette maison, elle est construite selon les attentes, selon aussi bien sûr les finances du foyer, selon les goûts, selon les aspirations, eh bien, de la famille en question. Et le Seigneur a construit cette église pour que nous puissions aussi y vivre dans cette église, pour que nous puissions nous épanouir dans la foi, pour que nous puissions bénéficier les uns et les autres de la communion fraternelle et nous édifier, que son nom soit béni. Alléluia. J'aimerais lire maintenant notre second texte d'introduction, et pour ce faire, on va aller dans le livre des Proverbes, Proverbes 24. Proverbes chapitre 24, et nous allons lire les versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. L'Église est comparée à une maison, et non seulement elle est comparée, mais c'est une maison. Sa maison, c'est nous. Il y a différents textes dans la parole de Dieu qui concernent les maisons, de nombreux textes même. Et nous pouvons faire aisément un parallèle avec ce qu'est l'Église. Et c'est important de définir l'Église pour savoir quelle est son identité, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'on doit y trouver, ce qu'on doit y attendre aussi. Sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison du Seigneur. Il y a trois choses ici que j'aimerais relever avec vous. C'est important que nous puissions relire ces choses-là. Il est dit, et on pense vraiment à cette Église qui est la maison du Seigneur. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Le premier point. Certaines versions, vous avez peut-être ça dans votre version, c'est par la sagesse qu'une maison s'édifie. C'est par la sagesse, donc premier point, qu'une maison s'élève ou s'édifie. Deuxième point, par l'intelligence qu'elle s'affermit. D'autres traductions, et j'aime bien cette expression, j'aime bien ce verbe, parce qu'il nous fait comprendre un petit peu mieux peut-être ce qu'est l'affermissement. Certaines versions ont traduit par l'intelligence qu'elle se consolide. Important, non seulement d'édifier, mais c'est aussi important d'affermir, de consolider la construction. De la consolider afin qu'elle puisse résister contre les tempêtes, résister contre certains accidents qui pourraient y avoir. C'est donc par l'intelligence, on va parler de toutes ces choses-là, que cette maison va se consolider, va s'affermir, et c'est ce que nous voulons aussi pour l'Église, qu'elle s'affermisse, qu'elle se consolide. Troisième point, c'est par la science ou la connaissance, parfois les termes sont interchangeables dans la parole de Dieu, ils sont différents, mais parfois c'est traduit science ou connaissance, on va en reparler tout à l'heure, c'est par la science que les chambres se remplissent, ou certaines versions marquées aussi, que le logis se remplit. Donc c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Seigneur n'a pas voulu une maison pour qu'elle soit vide. Une maison ne la construit pas pour qu'elle soit vide. Une maison, on la construit pour qu'elle soit pleine, pour y habiter. On y met nos biens précieux. Et que c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Que Dieu soit glorifié. On va revenir sur notre premier point. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève ou qu'une maison s'édifie. C'est ce que nous aspirons pour l'Église. Nous souhaitons qu'elle s'édifie. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui bâtit son Église, mais qu'il nous associe, on l'a vu ensemble dans le premier point, lorsque nous avons commencé cette série, c'est lui qui bâtit son Église, mais il nous fait la grâce ce privilège de nous associer les uns et les autres à cette construction. Aussi, nous fait-il confiance et nous laisse-t-il une certaine liberté de manœuvre, liberté d'action, tout en nous responsabilisant quant à la manière dont nous allons nous y employer pour construire cette maison. Mais sa maison, c'est nous. En même temps, c'est le Seigneur qui, bien sûr, bâtit son Église, mais qui nous emploie pour cela. Il avait donné à Moïse, on a lu dans le premier texte, il avait donné à Moïse le modèle. Et Moïse, enfin, ce n'est pas tellement Moïse qui a construit. Moïse a donné les plans, il a donné les plans généraux, mais ce sont des hommes qui ont construit le tabernacle. Il nous donne une certaine responsabilité quant à ce que nous faisons dans l'Église et ce que nous faisons avec l'Église. Aussi, nous voulons être empreints de cette sagesse qui vient de Dieu. Il y a une sagesse aussi dans le monde qui existe. Et cette sagesse dans le monde qui existe fait des constructions aussi. Une des fameuses constructions faites avec la sagesse humaine que nous voyons dans la Bible, c'est Babel. Elle a été construite par des raisonnements humains. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la terre. Déjà là, il y a une rébellion quant à un ordre donné par le Seigneur. Ils ont voulu se réunir tous au même endroit. Ils se sont dit, alors on va faire des briques, on va les cimenter, hein, et ils ont empilé les briques. Ils ont fait cette tour qui touchait au ciel. On sait qu'il y avait là aussi, c'était aussi une construction qui se voulait spirituelle parce qu'il y avait un culte qui était fait, mais un culte où Dieu y était absent. C'était donc une construction fait avec des raisonnements uniquement humains, avec la sagesse du monde. La sagesse du monde construit aussi. L'apôtre Paul nous parle de tous ces raisonnements et ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, des hommes ont été empreints de sagesse pour construire ce que Dieu avait mis à cœur, ce que Dieu voulait faire. Je parlais tout à l'heure du tabernacle. Dieu avait donné de la sagesse à deux hommes, mais pas que, à d'autres aussi, mais il nous est donné le nom de deux hommes, Bezalel et Oholiab, dans Exode 36. Dieu leur avait donné de la sagesse pour savoir et pour savoir faire. Des compétences qui venaient du Seigneur lui-même. C'était une sagesse qui venait du Saint-Esprit. Pour la construction du temple, on parle souvent de la sagesse de Salomon. Il est vrai. Déjà, David avait bien préparé les choses à l'avant, il avait préparé les matériaux. Salomon était empreint de sagesse. Mais on parle souvent moins d'un homme qui était à côté de Salomon. C'est Hiram. Or, Salomon, dans sa sagesse, avait repéré cet homme. Il avait repéré cet homme et il est allé le chercher parce que cet homme était doté de sagesse, il nous y dit dans la parole de Dieu, et c'est lui qui a, avec sa sagesse et son savoir-faire, qui a coordonné les travaux du temple. Donc cet homme aussi était empreint de sagesse. D'autres personnages de la parole de Dieu ont aussi été empreints de cette sagesse de Dieu pour faire des constructions. Pour revenir à l'Église, l'apôtre Paul dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Donc l'apôtre Paul avait fait ses plans, un architecte, il fait ses plans, il sait où il va. Et l'apôtre Paul était lui aussi empreint de cette sagesse. La sagesse est donc nécessaire parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Elle va choisir les matériaux, elle va écarter d'autres matériaux. Elle va faire son choix. Donc il est important d'être rempli de sagesse. Et l'on sait que le commencement de la sagesse, vous le savez, c'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte du Seigneur. Hein, c'est la crainte du Seigneur. Et c'est là qu'on sait que on touche à la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça nous responsabilise. Et on se dit, si c'est lui qui bâtit, sans lui, on ne peut rien faire. Psaume 127, tiens, pour reparler d'une maison, vous connaissez ce psaume certainement par cœur. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en vain. Ils travaillent pour rien. Quand bien même ils se lèveraient le matin, quand bien même ils redoubleraient de courage, de persévérance, s'évertueraient à bien faire, si Dieu n'est pas dans l'affaire, si ce n'est pas lui qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Jésus nous le rappelle aussi dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc je pense que la sagesse, elle commence là, elle commence tout simplement là. Si nous voulons que l'Église s'édifie, comprenons bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la sagesse. Par rapport au temple, le temple a été détruit, mais après, ils ont reconstruit le temple sous l'impulsion d'un homme qui s'appelait Zorobabel. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4, vous pourrez lire ce chapitre. Les travaux ont été stoppés pendant plusieurs années à cause de ses ennemis. Mais le Seigneur va encourager Zorobabel avec deux prophètes, Zacharie et Agée. Et Zacharie va dire, mais ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et souvent, on utilise ce verset à toutes les sauces, hein. Mais rappelons quand même que ça a été dit dans le cadre de la construction du temple. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. L'achèveront. C'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Ce n'est ni par notre puissance, ni par notre force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qui seul donne cette sagesse qui vient de Dieu. L'apôtre Paul le dit bien à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces trois choses dont nous avons besoin d'ailleurs pour construire la maison du Seigneur, force, amour et sagesse. Et c'est ce que nous communique le Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de cette sagesse. Les références sont nombreuses dans la parole de Dieu par rapport à la sagesse. Jacques nous parle de la sagesse d'en haut. Dans Jacques chapitre 3 et au verset 17, il donne les caractéristiques de la sagesse. On peut lire ce texte. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse en haut est premièrement pure. Elle est pure. Ensuite, pacifique. Modérée. Conciliante. Pleine de bons fruits. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Excusez-moi. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si nous n'avons pas cette sagesse d'en haut, quelle construction allons-nous faire? Oui, on va peut-être construire quelque chose, mais on ne va pas construire la maison du Seigneur. Et l'on voit que ce que va produire la sagesse nous est indispensable pour construire la maison du Seigneur. La sagesse en haut, elle est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Et sans ces composantes de la sagesse, c'est vrai que nous ne pouvons pas construire la maison du Seigneur. Pour revenir au livre des Proverbes, le mot « sagesse » revient très souvent dans le livre des Proverbes. Par exemple, il est dit dans le Proverbe 14, verset 1er, « La femme sage a bâti sa maison. Qu'est-ce que fait la folle ? Elle la renverse de ses propres mains. La femme sage a bâti sa maison. Et puis nous voyons au chapitre 9, verset 1er, que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a taillé ses sept colonnes. Les références à la sagesse sont donc nombreuses dans le livre des psaumes, mais pas que. Dans le Nouveau Testament aussi, nous venons de le voir avec l'épître de Jacques, la parole de Dieu, et l'apôtre Paul nous parle aussi de cette sagesse de Dieu qui s'est démontrée à la croix. C'est une folie pour le monde. La croix est une folie pour le monde. Elle méprise la croix. Et la prédication de la croix est considérée comme une folie. Mais c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est la puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia. Tout vient de là et nous ne pouvons pas aller plus loin dans la construction, dans l'édification de l'Église sans passer par la croix. La croix, c'est la sagesse de Dieu. Alors, si nous manquons de sagesse, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. Alléluia. Dieu est celui donc qui nous donne de la sagesse. Et nous aspirons à avoir cette sagesse qui vient de Dieu, même si parfois, cela, peut-être en demandant la sagesse, le Seigneur va nous le donner par son Saint-Esprit et il va nous reprendre. C'est pas toujours évident d'être repris par le Seigneur. C'est comme quand on va reprendre un enfant, quand on va le punir. Il n'est pas content sur le moment. Mais c'est nécessaire pour sa construction. C'est nécessaire pour lui intérieurement. C'est comme ça qu'il va apprendre dans la vie. Alors merci Seigneur. Nous inspirons à cette sagesse qui vient de toi, qui vient de ton cœur, pour pouvoir édifier l'Église comme tu veux que nous puissions l'édifier. Que son nom soit béni. L'Église s'édifie, mais l'Église se consolide, elle s'affermit. C'est par l'intelligence, nous l'avons lu tout à l'heure, par l'intelligence qu'elle s'affermit, ou certaines versions marquées qu'elle se consolide. Une construction, quelle qu'elle soit, a besoin d'être consolidée. On pourrait avoir une belle construction, mais si celle-ci n'est pas consolidée, si elle n'est pas affermie, avec le temps, elle va s'effondrer, il y aura des fissures et elle va finir par se casser. L'importance d'être consolidé. Ici, il est dit que c'est par l'intelligence. Bien sûr, ces termes-là se ressemblent. Sagesse, intelligence, science, ça va ensemble. C'est par l'intelligence. L'intelligence, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est la faculté de connaître et de comprendre. Faculté de connaître et de comprendre. Ce qui nécessite, bien sûr, une certaine ouverture et une certaine réflexion. Une certaine réflexion. Il faut réfléchir aux choses. La parole de Dieu nous invite à réfléchir. Le Seigneur nous donne de la sagesse. Cette sagesse va nous amener à réfléchir aux choses. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché que de réfléchir aux choses. Bien au contraire. Au jour du malheur, même il est dit, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Alors quand je suis éprouvé, quand je suis dans le malheur, bien sûr, dans la tristesse, mais réfléchis. Réfléchis pourquoi le Seigneur te fait passer par là, réfléchis aux choses. Réfléchis. Peut-être qu'il y a une leçon à tirer de tout cela. Donc nous sommes appelés à réfléchir. À réfléchir. Comme pour la sagesse, les références à l'intelligence sont nombreuses, que ce soit dans le livre des Proverbes comme dans d'autres livres. Par exemple, l'apôtre Paul parle de certains qui ont un zèle sans intelligence. On peut être très zélé, c'est-à-dire tout feu, tout flamme, zélé même pour l'œuvre de Dieu, zélé pour l'Église, mais sans intelligence. C'est bien d'avoir du zèle, mais avec intelligence. Cette intelligence qui nous vient du cœur de Dieu. L'apôtre Paul parle aussi de ceux qui ont une intelligence obscurcie. En fin de compte, c'est le Seigneur, de la même manière qui donne l'intelligence, la sagesse, c'est lui aussi qui donne l'intelligence. Il dira à Timothée, dans sa deuxième épître, au chapitre 2, verset 7, il lui dira ceci, « Comprends ce que je dis. comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Timothée était un serviteur de Dieu, c'était un pasteur, et il avait besoin de cette intelligence. Il avait fort à faire là où il était, il y avait des choses à régler là où il était, donc, et il avait besoin de cette intelligence. Et le Seigneur, l'apôtre Paul va lui donner certaines directives par rapport aussi à l'Église. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera en toutes choses de l'intelligence. J'aimerais peut-être avec vous lire dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Colossiens. Colossiens. Chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, certaines versions ont marqué connaissance, compréhension, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. L'apôtre Paul priait pour les Colossiens. Il cessait de prier pour eux. Continuellement, il priait pour eux afin qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Mais c'est bien d'être rempli, de connaître la volonté du Seigneur, mais il précise en toute sagesse et intelligence spirituelle. Car si c'est bien de connaître la volonté du Seigneur, il est bien de savoir comment on applique cette volonté du Seigneur, comment on la met en pratique, cette volonté du Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 8, Éphésiens, c'est un petit peu avant Colossiens, Éphésiens chapitre 1, verset 8. Voilà, juste verset 8, « Que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Voilà, encore un verset qui nous montre que cette sagesse et cette intelligence, elle nous vient de Dieu. Dieu l'a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors nous voulons nous tenir au pied du Seigneur pour être remplis de cette intelligence. Et cette intelligence a besoin d'être renouvelée, comme il est écrit, d'être renouvelée dans notre intelligence. Dans notre intelligence. Seigneur, renouvelle notre intelligence, sans cesse, afin que nous ne soyons pas comme ce monde, afin que nous ne conformions pas à l'intelligence de ce monde, mais que notre intelligence soit en connexion avec celle de Dieu. Alléluia. Oui, notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Et c'est ainsi que la construction, c'est ainsi que l'Église va pouvoir se consolider, être édifiée et consolidée, parce que nous aurons compris certaines choses. Quand on comprend, il est difficile d'être ébranlé dans ses convictions. Prenez. Quand on comprend les choses, que quelqu'un arrive avec ses arguments, on résiste, on peut résister parce qu'on a compris. Nous aussi, on a nos arguments. Nous aussi, on a notre position dans la foi. On a cette intelligence spirituelle. Et il n'est pas facile de nous ébranler à ce moment-là. Parce que notre cœur a été consolidé. Il en va même de même pour toute l'Église. Il en va de même pour toute l'Église. Donc nous voulons que l'Église soit forte, qu'elle soit consolidée, affermie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Mais cette construction ne servirait à rien si elle était vide. Si elle était vide. C'est triste de voir une maison construite qui vide. Mais nous voulons, comme il est écrit dans le Proverbe 24, nous l'avons lu, que cette maison se remplisse, que les pièces, les chambres se remplissent. Et c'est par la science. Nous voulons qu'il y ait de l'abondance dans la maison du Seigneur, l'abondance de la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une bonne abondance. L'abondance des fruits de l'esprit. Alléluia. Ça aussi, c'est un bien précieux et agréable, le fruit de l'esprit. C'est bon, un bon fruit l'été, on a des fruits là. Hein. Ils sont succulents, les prunes, les pêches, les nectarines, les pastèques, les melons. Qu'est-ce que c'est bon, hein. Qu'est-ce que c'est bon. Le fruit de l'esprit. Un fruit, c'est fait pour être mangé, c'est agréable. Et quand un frère ou une sœur porte le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est agréable d'entendre cette personne. Parce que ce qu'elle va dire, ça va dégager quelque chose de bon pour l'âme, pour celui qui écoute. La manière dont ce frère, cette sœur vit, va dégager quelque chose de bon. Et nous voulons, frères et sœurs, nous voulons vraiment que l'Église se remplisse de ces biens précieux-là, qu'elle soit remplie de la parole de Dieu, qu'elle soit remplie du fruit de l'Esprit, qu'elle soit remplie des dons de l'Esprit aussi. Ça aussi, ce sont des biens précieux et agréables. Que Dieu soit béni pour toutes les grâces qu'il nous accorde, pour tous les bienfaits qu'il nous accorde les uns et aux autres. Que Dieu soit béni. Et cette maison va se remplir de ces biens précieux. Nous sommes, nous aussi, en tant qu'individus, des biens précieux et agréables. Amen. Et nous voulons bien sûr que la maison se remplisse d'âmes. Le sage s'empare des âmes, gagne des âmes. Comme c'est écrit encore dans le livre des Proverbes. Le sage gagne des âmes. Donc nous voulons aussi que la maison se remplisse d'âmes. Quoi de plus précieux qu'une âme? Pour une âme, le Seigneur est monté sur la croix. C'est précieux une âme. Alléluia, c'est précieux une âme. Et nous voulons que la maison se remplisse de ces biens précieux et agréables. Et ça va se faire par la science. Alors, certaines versions ont traduit connaissance. D'ailleurs, les termes sont parfois interchangeables dans la parole de Dieu. Connaissance ou savoir-faire, c'est pour le mot science. Connaissance ou savoir-faire. Quelques références que nous avons dans le livre des Proverbes, par exemple, dans le Proverbe 19, verset 2, il est écrit que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Imaginons un scientifique quelconque qui n'a pas les connaissances requises pour son domaine d'activité. Il ne va pas aller loin. Il ne va pas aller loin. Le manque de science n'est bon pour personne. Dans le Moyen-Âge, à cause du manque de science, certains même hommes d'église ont dit n'importe quoi. Et on fait des massacres au nom d'une pseudo-science. Mais le manque de science n'est bon pour personne. N'est bon pour personne. Dans le Proverbe 15, verset 14, il est dit qu'un cœur intelligent, on revient à l'intelligence, un cœur intelligent cherche la science, ou la connaissance, ou le savoir-faire. En se rappelant quand même que la connaissance la plus précieuse, c'est celle de Dieu. Cherchons à connaître le Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alors, cherchons la science. Non pas la science, comprenez quand je parle de science, mais cette véritable science, elle se trouve en Jésus. Retournons dans le livre de l'Épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 3. On peut peut-être lire aussi le verset 2 afin de bien comprendre. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et là, écoutons bien. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous avons en Christ tous les trésors de la sagesse et de la science. Celui qui a trouvé Christ, j'allais dire, celui qui connaît Jésus, a devant lui un trésor extraordinaire. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Jésus. On comprend pourquoi la science va remplir la maison de biens précieux et agréables. Le problème des Colossiens, ou du moins le problème principal des Colossiens, c'est qu'ils avaient plus qu'une tendance, mais ils étaient influencés par une certaine sagesse du monde, mais tout en mettant de côté le Seigneur. Ils pouvaient apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Aussi, l'apôtre Paul leur rappelle que tous les trésors de la sagesse et de la science se trouvent en Jésus. Alléluia. Et lorsque nous cherchons en Jésus cette sagesse et cette science, c'est avec cette sagesse et cette science que nous allons trouver en Jésus que nous allons pouvoir non seulement édifier, affermir, mais aussi remplir la maison du Seigneur de ses biens précieux et agréables. C'est le Seigneur qui est à l'origine de tout, c'est le Seigneur qui est à la source de tout. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui. Et en lui, nous avons tout pleinement. C'est lui qui donne l'intelligence. Il donne de l'intelligence aux simples, est-il écrit. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous accordes. Aussi l'apôtre Pierre dira dans sa deuxième épître, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu, la science. » Amen. La science. On voit l'important de la science, de cette connaissance spirituelle qui se trouve dans la personne du Seigneur Jésus, qui nous a révélé qui est le Fils de Dieu, qui est le Père, excusez-moi. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Amen. Sans ça, la maison, elle est vide. La maison peut être balayée, ornée, vous connaissez hein, ce passage des évangiles. Elle peut être belle, balayée, propre, décorée. Mais si elle est vide, déjà ça ne sert à rien. Et il y a un danger en plus. Hein. Vous connaissez ce passage des évangiles. Il y a un danger. Nous voulons que la maison de Dieu se remplisse de biens précieux et agréables. Alléluia. C'est là notre désir, c'est là notre prière, c'est là notre aspiration. Afin que l'Église puisse rayonner, afin que l'Église puisse être comme un phare dans la nuit, comme nous on chante dans un cantique là. Afin que l'Église puisse avoir son impact dans cette ville, son impact dans cette génération, dans cette région. Que ceux qui sont affamés, que ceux qui sont assoiffés puissent trouver dans l'Église ces biens précieux et agréables. Ces biens précieux et agréables. Je citais récemment cette parabole qu'on appelle la parabole des trois pains. Un homme vient de nuit chez un ami, mais il n'a rien. Sa maison, elle est vide. C'est dommage quand des âmes qui sont perdues viennent à l'Église et qu'on n'a rien à leur donner. Hein. On n'a même pas cette parole de Dieu à leur communiquer. Ils repartent avec leur faim spirituelle. Ils repartent toujours assoiffés, insatisfaits. Nous voulons que la maison soit remplie de pain. Alléluia. Qu'il y ait ces biens précieux et agréables. Qu'ils puissent trouver Jésus en venant ici, qu'ils puissent trouver la parole de Dieu, qu'ils puissent trouver ces biens précieux, ces biens spirituels qui se trouvent nulle part autre que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'Église reflète la beauté du Seigneur. Alléluia. nous sommes appelés les uns les autres à répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Que son nom soit béni. Amen.